Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Ce matin, on apprend que le ministre de l'Immigration fédérale, Mark Miller, a donné une directive à ses fonctionnaires de ne pas tenir compte du seuil imposé par Québec pour ce qui est des regroupements de familles et de procéder pour des raisons humanitaires. Le délai pour le Québec, c'est 34 mois au minimum, puis au fédéral, c'est 12 mois. Puis aussi le devoir qui nous disait que le gouvernement travaille discrètement depuis 2 ans sur sa capacité d'accueil en immigration. Est-ce qu'on devrait, plutôt que ça se passe derrière les coulisses, faire un débat public là-dessus, Luc?
Oui, parce que ce qui se produit, c'est que le gouvernement est déterminé puis il l'a dit dès le départ, à faciliter l'arrivée des travailleurs qui sont là pour des raisons économiques et à bloquer toutes les autres catégories, regroupement de familles et réfugiés. Est-ce que c'est ça le vœu de la population? Est-ce que c'est vraiment... C'est quoi les conséquences? C'est quoi les impacts? Comment les uns et les autres s'intègrent, etc.? Tout ça devrait être au clair. Parce que la stratégie du gouvernement du Québec, c'est de dire, moi, je peux pas contrôler les arrivées, mais ce que je vais faire par exemple, avec les étudiants d'une catégorie d'étudiants, puis avec les travailleurs du PMI, mais je vais contrôler l'immigration. Fait que là, ils arrivent, mais ils sont jamais reçus comme immigrés. Ou alors, dans le cas des familles, ils restent à l'étranger. Là. Et moi, je connais des cas personnellement de personnes où le père, la mère et l'enfant sont dans un autre pays, le père est ici 3 ans. Fait que l'enfant a 3 ans.
Ça fait 3 ans qu'on attend.
Ça fait 3 ans qu'ils attendent. Et l'enfant a 3 ans. Donc, tu sais, c'est à un moment donné... Il faudrait qu'il lâche du lousse un petit peu. Maintenant, pourquoi et comment lâcher du lousse? Ça prend un vrai débat, puis ça prend une vraie réflexion qui ne soit ni raciste, ni licorne. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'il y a eu un groupe de travail qui s'appelle un groupe de discussion sur l'employabilité. Il y avait des patrons des syndicats, des groupes communautaires en employabilité, puis ils ont pendant 2 ans, ça s'appelle le j'ai pas le nom de suite. Pendant 2 ans, ils ont fait des rencontres, ils sont arrivés au bout de 2 ans en disant, non, c'est stérile, on n'arrive pas à faire des vrais indicateurs. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à faire des vrais indicateurs? Mais le conseil du patronat a donné la réponse. Le conseil du patronat, M. Dufour, qui dit, M. Blackburn, qui dit, ça n'existe pas une capacité d'accueil, c'est quelque chose que l'on crée. Donc, en gros, puis il me dit exactement ce que tout le monde m'a dit dans les entrevues que j'ai faites, c'est, on a juste à s'arranger pour que ça marche.
Mais c'est un peu simpliste, trouve pas, toi?
Tellement. Parce que, tu sais, c'est comme les autoroutes. Tu pourrais dire, pas vrai qu'il y a un problème de congestion. À la longue, on a juste à en construire plus. Où les gens vont se décourager puis ils vont prendre le transport en commun. Il y en a pas de congestion. Mais 2 ans de travail pour arriver à cette conclusion-là. 2 ans de travail pour arriver à la conclusion. Non, ça n'existe pas un indicateur scientifique. Mais ça permet le statu quo. Et le statu quo, c'est quoi? Le statu quo, c'est que c'est 5 ans, 5 fois plus de travailleurs temporaires, étudiants temporaires, immigrés, demandeurs d'asile, qui a 5 ans. Fait qu'on en a 5 fois plus, mais on n'est pas capable de dire qu'il y en a trop. Et on a un indice d'abordabilité du logement qui s'est effondré, mais la responsable responsable de la Commission canadienne des exportations qui dit « Oui, mais ça, c'est pas un indicateur. C'est juste parce qu'on n'en construit pas assez. »
Nathalie.
Tout d'abord, la réaction du ministre Miller, c'est l'équivalent de donner un coup de pied dans le nid d'abeille. C'est une gifle à l'endroit du gouvernement du Québec. Et je salue, c'est rare que je fais, là, mais je salue ce matin cette décision du ministre Mark Miller qui veut accélérer le processus pour permettre à des membres d'une même famille de se retrouver en sol québécois. Luc, tu parlais de famille que tu connais. Moi, j'accompagne en ce moment un chauffeur de la STM qui est désespéré. Sa femme vit en République dominicaine avec sa fille. Ils se sont mariés. Ça fait presque 2 ans qu'il est en attente. Puis, tu sais, on s'entend, là, lui est prêt. Il a une job. Il a sa citoyenneté canadienne. Il est prêt à subvenir à tous leurs besoins. Et ça n'arrive pas. Et il y a énormément d'arbitraire dans la gestion de cette catégorie catégorie d'immigrants. Et d'ailleurs, c'est l'avocat de Québec, maître Maxime Lapointe, qui a envoyé une mise en demeure à la ministre. Et là, il la poursuit en cours pour les délais indus dans le domaine, dans le secteur, justement, des regroupements familiaux. Pour ce qui est de l'article du Devoir, je sais pas comment la ministre, en passant, va réagir. Là, je vais finir mon idée là-dessus, sur la sortie de Mark Miller. Mais clairement, ça va créer des flamèches entre Québec et Ottawa. Mais en même temps, Mark Miller évoque des considérants de nature humanitaire, puis il a raison de le faire. Pour ce qui est de l'article du Devoir, moi, j'ai été très étonnée d'apprendre qu'il y a un tableau de bord qui circule en immigration depuis 2 ans. Mais ce qui m'étonne, c'est, il y a ça, mais c'est davantage le fait qu'au Québec, on n'a pas encore réussi à définir, on n'a pas de définition objective au ministère de l'Immigration de ce qu'est le concept de capacité d'accueil. Et ce, malgré le fait que le Québec est signataire d'une entente avec Ottawa en immigration. La première entente date de 1978, l'entente Colin-Couture, et l'entente de 91, qui est toujours en vigueur, l'entente Gagnon-Tremblay-McDougall. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai appris hier, en écoutant tout le monde en parle, c'est John Parizella qui le confirmait, c'est grâce à M. Mulroney que cette entente a été signée entre Québec et Ottawa. John Parizella était chef de cabinet de M. Bourassa, puis l'entente, ça marchait pas, c'était long, les délais étaient longs. Alors, M. Mulroney, M. Parizella se sont parlé sur un tout autre sujet, et puis c'est comme ça que l'entente, finalement, 2 mois après leur conversation, s'est réglée. Voilà pour la petite histoire. Donc, dans ces ententes, il y a bien un ratio, il y a un chapitre qui porte sur le ratio à respecter pour le Québec en matière d'accueil d'immigrants, mais on n'a pas d'indicateur clair au ministère de l'Immigration sur est-ce que le Québec peut ou non recevoir, mettons, 50 000, 60 000, 70 000, 100 000 immigrants. On n'a pas de données objectives sur ce qu'est la capacité d'accueil, ces indicateurs qui nous indiquent clairement que le Québec a une capacité d'accueil qui est atteinte ou sur le point d'être atteinte. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans l'article, on apprend également que ce fameux tableau de bord, selon la réponse du ministère de l'Immigration, on peut pas tirer de conclusions sur, on peut pas utiliser ces infos pour dégager des conclusions sur la capacité d'accueil, mais, il y a pas si longtemps. Rappelez-vous, le premier ministre qui écrit au premier ministre du Canada, M. Legault, qui écrit à Justin Trudeau en disant, on est sur le point de rupture, 4 ministres qui font une conférence de presse pour dire, rien ne va plus, mesdames et messieurs, il faut passer à l'action, ouais. Alors qu'on n'a pas de données objectives qui confirment, comprenez-vous?
Mais c'est parce que Nathalie, oui, mais c'est parce que dans ce domaine-là, c'est comme le troisième lien. Les déclarations de Legault puis Fréchette n'ont plus de valeur. Ils peuvent faire une déclaration tous les jours, ça n'a aucune valeur, parce que ils ont trop caché d'informations. Oui, mais ils ont trop caché d'informations. Avec le temps, ils ne s'en sont pris qu'aux demandeurs d'asile, ont essayé de cacher l'information sur les travailleurs temporaires, ont essayé de tricher sur les chiffres de nombre d'immigrants réels qui rentraient, en ne présentant pas 10 000, une nouvelle catégorie qui en contenait 10 000, 2 nouvelles catégories. On ne peut plus les croire. Fait que là, ça
Luc,
prend
si tu étais à l'Assemblée nationale, je te dirais, Monsieur le Président, Monsieur Ferrandez utilise une expression qui est interdite au Salon Bleu de l'Assemblée nationale.
C'est le fun qu'on n'y soit pas.
Oui. Non, mais quand tu parles de cacher des données, Luc, je trouve que tu vas fort, là, ça.
Ben, c'est
ça
la vérité. C'est la vérité. Tu fais une conférence de presse dans laquelle tu dis, on est entre 55 000 puis 50 puis 60 000 nouveaux immigrants. On est le lendemain, on apprend que c'est 65 000, Stick. C'est quoi ça?
Ils n'ont peut-être pas les bonnes données, ce qui est très, très préoccupant.
C'est des cachotteries.
Deuxièmement, il y a un choix éditorial qui a été fait au Québec.
Ben oui, c'est ça.
Voilà. Mais c'est pas cacher la vérité. Ça, c'est dire, nous autres, là, pour notre économie, on préfère accueillir davantage de travailleurs temporaires, davantage d'immigrants économiques.
Oui, mais tu fais une déclaration par jour en disant, on est au point de rupture. La même semaine, tu ouvres un nouveau programme pour les immigrants internationaux. La même semaine. Fait que laisse faire, c'est des cachetteries, Nathalie. Puis moi, je suis pas à l'Assemblée nationale, fait que ça la donne bien.
Fait que tu peux le dire.
Oui, c'est ça. Okay. Ensuite de ça...
Moi, je demanderai un peu tes propos, mais j'écoute,
oui,
je respecte ton
correct.
Point de vue,
Non, mais c'est correct.
Juste te dire que la ministre a envoyé un communiqué ce matin à Mme Fréchette, elle est outrée.
Ah, OK, parfait.
Oui,
c'était imprévisible, par exemple. Là, mais
elle est outrée après qui? Paul après lui ou après Mac Miller?
Les deux.
Ouais, OK. Mais juste une affaire, là. C'est que le discours est très, très, très difficile à fixer de façon, même pour le gouvernement, parce que t'as les gens d'affaires qui font pression. Moi, j'ai eu Michel Leblanc, le pres d'Investissement Québec, là, celui qui vient de changer. C'était qui avant, Nathalie?
Avant Mark Miller, il avait changé.
Non, le président d'Investissement Québec, là, il vient de changer.
Guy Leblanc.
Michel Leblanc, c'est drôle, ils ont le même nom.
Guy Leblanc.
Et les deux m'ont répondu à la même chose. Les deux m'ont répondu, ah, Qu'est-ce que tu veux? Nous autres, on n'est pas responsables du logement. Nous autres, on crée des emplois. Puis là, je dis, oui, mais il va falloir en créer des... Oui, 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 il va falloir créer des logements, mais ça, c'est pas nous, là. Ça, c'est autre chose. Fait que c'est cette approche-là du monde des affaires. Puis l'autre approche, c'est une approche... même Claude Pinard de Centraide, à Montréal, a dit, on n'en peut plus, on est débordé. Mais il n'a jamais dit, il faut en recevoir moins. Il a dit, on est débordé, donnez-nous plus de ressources. Ça n'arrivera pas, là. Mais, tu peux pas multiplier par 5 le nombre de réfugiés puis dire, ben, ça va prendre 5 fois plus de ressources alors que ça n'a pas augmenté pantoute. Donc,
mais tout le débat est là parce que Québec dit, ben oui, plus de ressources, on n'a pas les marges de manœuvre. D'ailleurs, 100 millions qu'a accordé Ottawa à Québec pour compenser alors qu'on est bien loin du compte. Québec demande plus de 400 millions, presque un demi-milliard. Mais l'exemple de la Beauce est fort intéressant. Vous l'avez peut-être lu toujours dans Le Devoir. Et sur la capacité d'accueil, parce que la gestion de la capacité d'accueil, là, au-delà du concept, au-delà des grands indicateurs que peut utiliser le ministère de l'Immigration, ça se joue sur le terrain. Beauce, le cas de la MRC Beauce-Sartigan, je vous invite à voir ça. 8 municipalités ont mis sur pied ce qu'elles ont appelé les structures d'accueil et d'intégration municipale. Et là, c'est formidable. On parle de communautés, là, de 2500, 2600 habitants. Et là, il y a des dizaines et des dizaines de travailleurs temporaires qui arrivent dans ces municipalités. Fait qu'imaginez le défi de les loger, le défi de leur donner les services dont ils ont besoin. Le monde se parle. Les propriétaires d'entreprises, les usines, le milieu municipal, le milieu communautaire sont autour d'une grande table. Puis bon, voici, écoute, j'ai 15 employés qui arrivent. T'as-tu du logement? J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est absolument formidable. Conclusion, l'enjeu de la capacité d'accueil, ça se joue peut-être davantage sur le terrain qu'au ministère de l'Immigration, dans une tour quelconque.
Nathalie, j'ai des doutes, je comprends. Puis moi aussi, j'ai lu ça, puis j'étais enchanté, puis j'ai vu que ça s'est fait à Rouyn-Noranda aussi pour les infirmières,
oui,
c'est magnifique.
Oui.
Mais là, on parle de 1000, on a reçu 500 000. Puis dans les villes, il n'y en a plus de logement.
Voilà, on s'arrête là-dessus. Au retour, le 12 mars prochain, pardon, ce sera le budget du Québec. On n'a pas d'argent à dépenser, on n'a pas une scène. Est-ce que le gouvernement doit réduire ses dépenses? Peut-il le faire sans réduire les services? Maurice donne un petit peu moins cette année à sa province.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, alors, ce sera le budget du Québec le 12 mars prochain. Le gouvernement dit que le déficit sera plus important que prévu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On réduit les dépenses, on essaie de pas trop toucher aux services. C'est quoi la clé magique?
C'est le grand défi, Paul. D'ailleurs, le ministre des Finances nous a déjà prévenu. Il faut jouer dans la colonne des dépenses. Mais je vous préviens tout de suite, là, exit le champagne et les confettis pour le prochain budget, les amis. Ce sera probablement un exercice de couleur beige et terne. Non, mais bien honnêtement, là. Puis, et sachez qu'après chaque discours sur le budget au Salon Bleu de l'Assemblée nationale, il y a toujours une réception avec un petit verre de vin, des petites bouchées. Mais je sais pas
un
si
scandale.
Cette année. Oui. Je sais pas cette année s'ils vont décider de passer leur tour. Mais ça se pourrait que les petites bouchées soient peut-être moins intéressantes que d'habitude.
Un coupon par député, pas plus.
Un coupon par député. Non, mais honnêtement, couper dans les dépenses sans réduire dans les services, ça, c'est une chose, mais le contexte ajoute un autre coefficient de difficulté pour le gouvernement, celui lié au ralentissement économique, parce que le Québec vit une pause sur le plan de la croissance. Alors, le gouvernement devra, d'une part, oui, réduire les dépenses sans couper, sans réduire les services, et d'autre part, il devra identifier un train de mesures pour stimuler l'économie, pour éviter qu'on s'enfonce dans une récession. Il y a peut-être un levier qui est à sa disposition, c'est l'entente avec Ottawa sur le logement. Il y a 1,8 milliard là, qui a été confirmé. Il y a peut-être une possibilité de relancer le secteur de la construction, entre autres avec l'enjeu du préfabriqué. D'ailleurs, je vous invite à lire un très bon texte de Jean-Benoît Dadeau dans l'actualité sur l'enjeu de la préfabrication dans le secteur du logement. Mais au-delà de ça, il y a ces deux grands défis. Puis j'ajouterais aussi, il faut faire tout ça en préservant les secteurs essentiels que sont la santé et l'éducation. D'ailleurs, petite donnée là, d'ordre financière sur des dépenses de budget. Au dernier budget 2023-2024, là, il y avait 138 milliards, on va faire un chiffron, de dépenses consolidées. Pour le secteur de la santé et services sociaux, 59 milliards de budget. L'éducation, c'est un peu plus de 20 milliards et l'enseignement supérieur, 10,4 milliards de dollars. Puis tous les autres ministères se sont séparés à peu près 48,7 milliards. Donc, il faudra que le gouvernement réussisse à préserver ses missions essentielles s'il veut mener à bien toutes les réformes qui ont été annoncées en éducation et en santé. Mais, pour la prochaine année, je vous prédis des annonces recyclées, les amis, parce que, tu sais, quand t'as pas d'argent, t'as plus de marge de manœuvre, tu fais quoi? Ben, tu recycles des annonces.
Luc. Ah, OK, intéressant. J'ai hâte de voir ça, ce point-là, effectivement, parce que ça me surprendrait que le gouvernement sorte en disant, ben, OK, ça, on a tellement dépensé plus que la moyenne du Canada. Parce que les dépenses, puis on peut plus rien faire. Ça me surprendrait que ça soit ça le message de base. J'ai hâte de voir comment il va le sortir. Fait que je trouve que tu me donnes un bon indice, Nathalie. Parce que le gouvernement a dépensé plus que la moyenne du Canada, sauf que le gouvernement fédéral puis le gouvernement de la Colombie-Britannique. Nous autres, on a dépensé 36 % de plus depuis la pandémie, alors que l'Ontario, 22 %. Donc, tu sais, nous autres, et en plus, comme c'était pas suffisant, on a coupé des impôts en même temps. Alors, coupe les impôts, augmente les dépenses, à un moment donné, tu te ramasses dans le mur. Et puis, c'est ce qui s'est passé. La coupure d'impôts, là, au total, là, sur 4 ans, ça va coûter 9 milliards de dollars. Les deux points d'impôts qui ont été coupés dans les deux premiers niveaux de... le point d'impôt qui a été coupé dans les deux premiers niveaux d'imposition et qui touche tous les Québécois. Fait que, comment avoir fait ça il y a, tu sais, une poignée de mois, puis après ça, dire, « Ah, là, maintenant, ça va pas bien. » Ben oui. Louis Lévesque, responsable du comité des finances publiques de l'Association des économistes québécois, puis eux autres, généralement, ils sont écoutés par le ministère, et il dit, faut aller dans des coupures ciblées. Des coupures ciblées, il pense, par exemple, à tous les crédits d'impôt pour les jeux vidéo. Il y en a pour 360 millions par année. Il parle aussi du financement des voitures électriques, la subvention qui est donnée. Il y en a pour 250 millions de dollars par année. Moi, je rajouterais à ça, on a perdu 1 milliard avec Hydro-Québec. En un an, 1 milliard de bénéfices. Ça me surprend parce que, tu sais, on a augmenté. C'est un climat difficile, là, avec Hydro-Québec. Il y a une baisse des réservoirs, il y a une baisse du prix des ventes aux États-Unis.
Il fait chaud,
c'est difficile, mais en même temps, on a quand même, on avait 40 TWh de surplus il y a 5 ans, on en a plus, ça devrait paraître quelque part, ça, c'est des revenus, c'est de l'argent. Alors, les coupes de tarifs qui ont été données à des entreprises manufacturières québécoises, est-ce qu'on peut revoir ça? Est-ce qu'elles en ont toujours besoin? Est-ce qu'elles en ont besoin dans tous les domaines? On a donné des tarifs bas encore aux alumineries Rio Tinto Alcan, par exemple. Est-ce qu'on peut commencer à augmenter un peu le feu? Il a été augmenté, là, parce que le tarif, elle, a été légèrement augmenté, mais est-ce qu'on peut aller plus fort là-dessus? Taxe carbone. T'sais, on a une taxe carbone qui marche bien. Elle a rapporté plus que 1,5 milliard, 1,8 milliard, je pense, l'an passé. On s'en sert pour faire quoi? Le fonds vert. Le fonds vert, c'est Pif Gadget. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, tu fais n'importe... Hey, écoute, il y a un spot Québec qui a obtenu une subvention de 500 000 $ du fonds vert. Après ça, les activités du gouvernement, on va essayer de réduire l'empreinte carbone des activités du gouvernement pour 55 millions. Pif Gadget. Le fonds vert, c'est un trou noir. Et puis, d'essayer de récupérer une partie de cet argent-là pour des vrais projets, ça pourrait avoir du sens. Ça pourrait être une façon de dépenser de façon intelligente dans les prochaines années. Dans les mesures ciblées aussi, moi justement, tant qu'aller dans la taxe carbone, ben faisons des vraies taxes carbone, comme par exemple une taxe carbone sur les véhicules plus lourds. On avait ri de ça après ça parce que ça a été appelé la taxe orange sous le gouvernement, pendant la campagne électorale, c'est Québec solidaire qui l'avait proposé. Est-ce qu'on peut réétudier cette affaire-là de façon plus intelligente? Et il semblerait que la CAQ avait été ouverte à ça pendant un certain temps. Est-ce qu'elle l'est à nouveau? Donc, moi, je pense que l'évêque a raison. Faut aller dans le ciblé. Faut surtout pas toucher à ce qui a été bien fait, c'est-à-dire augmenter les dépenses en santé et en éducation.
Luc, le fonds vert, là, au fil des années, c'est devenu un gros budget discrétionnaire pour les ministères. Oui. Tous les ministères pigent là-dedans, là, puis pour répondre à leurs besoins. Moi, ça m'étonnerait que le gouvernement de François Legault opte pour une nouvelle taxe. D'ailleurs, l'Association des économistes suggère d'augmenter la TVQ de 1...
Ben, ouais, en fait, c'est pas rien, ouais. Hein?
Mais non, mais là, ça démontre à quel point il y a un décalage entre les économistes et les politiciens, là, vraiment. Là, la CAQ n'ira jamais de ce côté-là, oublie ça. Pourquoi il n'ira pas de ce côté-là? Parce que les municipalités, maintenant, ont la possibilité d'augmenter les immatriculations pour financer les activités de transport en commun. Ouais. Alors, tu sais, il y a déjà ce champ de taxation sur le plan fiscal, là, qui est donné aux municipalités. Moi, je pense qu'il va y avoir trois grands messages dans ce budget. Le premier, le gouvernement va prendre le soin de rappeler à quel point il était généreux avec les Québécois, baisse des impôts, l'envoi des chèques. Vraiment, ça, ils vont faire le bilan de ce côté-là. Deuxièmement, ils vont axer, je pense, beaucoup leur message sur la responsabilisation, sur le message du gouvernement responsable. C'est-à-dire qu'on dépense les dollars qu'on a à notre disposition. Pas question de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Ça pourrait ressembler à ça. Puis troisièmement, ils vont essayer, effectivement, de faire des miracles. avec ce qu'ils ont. Ils vont tous nous enrubaner ça, là. Ils vont tous nous mettre ça beau, là. Mais tu sais, quand tu vas commencer à gratter, tu vas te rendre compte, finalement, qu'il n'y a pas grand-chose. Mais t'as raison, Paul. C'est l'image du Plessis qui ne peut plus donner à sa province.
Non, je pense, il va donner moins, en tout cas. Ça, c'est sûr. Puis il va compter sur la croissance. Et une phrase magique. En fait, des mots magiques. D'abord, on peut pas parler d'austérité. On sait que c'est pas bon. Il faut parler de
nationalisation.
Même pas, ça fait peur. C'est maximiser l'efficacité, etc. Et ce que les libéraux faisaient avec brio, c'était de dire, on n'a pas coupé d'indépenses, on les augmente moins.
Ah.
Tu comprends? C'est que, oui, mais c'est parce que tu dis l'inflation est là. Oui, mais on n'a pas réduit les dépenses.
Fait que les dépenses par capita ont diminué, mais pas les dépenses.
Voilà.
Ouais.
C'est-tu pas pire, ça? On vous retrouve demain.
C'est 23.